Est-il possible de diriger une entreprise performante tout en se préoccupant de développement durable, d'écologie, du bien-être de ses employés et de celui des générations futures? Eh bien, notre prochaine invitée, Corinne Gendron, titulaire de la chaire de responsabilité sociale et de développement durable à l'Université du Québec à Montréal, consacre beaucoup d'énergie depuis quelques années à essayer de passer le message, comme on dit, de convaincre les entreprises, les citoyens, les gouvernements à poser des gestes qui pourraient aller dans cette direction. Diplômée en gestion, docteur en sociologie, elle publie aux presses de l'Université du Québec à Montréal un livre intitulé « Le développement durable comme compromis, la modernisation écologique de l'économie à l'ère de la mondialisation ». Corinne Gendron est avec nous. Bonjour, Madame Gendron.
Bonjour.
Justement, la modernisation écologique, c'est un nouveau terme, ça? C'est vous qui l'avez créé ou...
Non. Je pense que je me suis inspirée de grands auteurs en économie de l'environnement et je l'ai repris, ce terme-là, parce que je pense qu'il traduit bien la phase dans laquelle on entre actuellement depuis peut-être les 10 dernières années. On cherche à moderniser sur le plan technologique, sur le plan de la gestion, mais on a un nouvel objectif, c'est de moderniser de manière à être plus écologique, c'est-à-dire de manière à réduire l'impact écologique des activités économiques. Donc, c'est ce que j'appelle modernisation écologique
de l'économie.
Mais quand
vous dites « on est », c'est une préoccupation qui est largement partagée ou s'il faut encore la vendre?
Il faut la vendre, mais elle est quand même partagée par de plus en plus d'acteurs. Vous avez des entreprises qui sont chef de file sur la question. Vous avez eu récemment des entreprises qui ont signé une lettre en faveur des changements, de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même bloc, par exemple, et dire qu'il n'y a personne qui se préoccupe d'environnement. Vous avez quand même de plus en plus d'organisations qui s'intéressent à la chose et qui cherchent des moyens pour réduire l'impact écologique de leurs activités.
Pourquoi se préoccupent-elles de ça? Par altruisme ou parce qu'elles ont compris que, ultimement, ça pouvait être rentable aussi?
Bien, c'est
parce qu'on a cette perception-là, hein, que l'entreprise est obsédée par ses revenus.
Obsédée, écoutez, l'entreprise, c'est quand même une création de la loi. Et selon cette création-là, la responsabilité de l'entreprise, c'est de faire fructifier un capital. On ne peut pas lui dire, écoute, ne fais pas ça. Elle est créée pour faire ça.
Oui.
Donc, on ne peut pas parler d'obsession. C'est sa mission en termes juridiques, à moins que ce soit une OSBL. À ce moment-là, elle est incorporée pour d'autres fins que de faire des profits. Donc, on ne peut pas reprocher à une entreprise d'essayer de faire des profits, c'est inscrit dans la loi.
Mais c'est au nom de ça que les entreprises ne respectaient pas nécessairement, n'avaient pas une conception écologique de leur développement.
Bien, voilà, hein? Voilà, là, il y a...
Qu'est-ce qui les motiverait, en d'autres termes?
C'est ça, il faut préciser, parce qu'il y a des questions environnementales. Quand on s'en préoccupe, ça peut avoir un impact financier positif. Je vous donne un exemple, l'efficacité énergétique, de prendre des mesures où vous réduisez votre consommation d'énergie. Vous êtes en train de protéger l'environnement et en même temps, vous avez un retour sur l'investissement. Mais il y a d'autres mesures environnementales qui correspondent à des coûts. Et à ce moment-là, une entreprise peut difficilement les justifier, à moins qu'elle y soit obligée par la loi ou encore qu'éventuellement, ça puisse lui apporter d'autres bénéfices. Par exemple, des consommateurs qui se disent « Ah, cette entreprise-là, elle est plus responsable qu'une autre entreprise, donc je vais plutôt acheter de cette entreprise-là. »
Donc, ça améliore l'image.
Ça améliore l'image. Ou encore, c'est une entreprise qui choisit sur le plan stratégique. Donc, par rapport à toutes les autres entreprises, elle se dit « Moi, je veux être perçue comme étant l'entreprise la plus responsable de mon secteur. » Oui, c'est une question d'image, mais ça a des retombées aussi en termes de risque, c'est-à-dire que sur un marché boursier, si vous avez une entreprise qui prend en compte tous ses risques environnementaux et ses risques sociaux, elle est moins risquée qu'une autre entreprise. Donc, ça peut aussi avoir un impact financier, cette question de positionnement stratégique et d'image. Alors, c'est quand même complexe, là, la rentabilité, les questions environnementales, le coût. On ne peut pas trancher ça si facilement que ça.
Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est brillant de s'en préoccuper, en fait, d'avoir une perspective écologique de l'économie.
Mais je pense que c'est un minimum Et il y a des entreprises qui le font de façon brillante, puis il y en a d'autres qui le font de façon moins brillante. C'est-à-dire qu'il y en a qui se contentent de faire un peu de marketing vert et puis de dire, oui, nous, on est bien gentils, regardez. Et puis, en fait, ils ne sont pas en train de réviser en profondeur leur processus de gestion. À ce moment-là, ce n'est pas très intéressant. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises et de plus en plus qui font un véritable exercice et qui examinent toutes leurs opérations, leur processus de gestion et vont chercher vraiment à améliorer leur performance environnementale et sociale.
Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça?
Bien, écoutez, il y a plusieurs déclencheurs. Au niveau de l'entreprise en tant que telle, la législation, certainement.
Oui, le fait qu'on les ait forcés à faire certains efforts.
C'est, ça, c'est clair, parce que l'entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, si elle va chercher à augmenter ses profits, elle n'aura pas vraiment le choix. Il faut la forcer à faire quelque chose si ça correspond à des coûts. Mais il y a quand même aussi l'opinion publique qui s'est mobilisée. Non seulement par des campagnes directes, alors des gens qui vont dire aux entreprises par des courriels, par des manifestations, etc., arrêtez de polluer, mais il y a d'autres moyens d'action maintenant. Alors, c'est ce qu'on appelle les nouveaux mouvements socio-économiques. Ce sont des mouvements de pression qui vont utiliser, par exemple, des votes en Assemblée générale pour déposer des résolutions et exiger que l'entreprise, par exemple, adopte un plan de gestion environnementale.
Dans les assemblées générales d'entreprises.
D'entreprises, oui. C'est ça. Et vous avez aussi des consommateurs responsables qui vont privilégier des entreprises, par exemple, qui vont être certifiées ISO 14001 ou qui vont avoir d'autres types de certifications parce que cette certification vient confirmer que l'entreprise a adopté des méthodes de gestion qui sont plus écologiques ou plus sociales.
C'est ça, parce qu'il y a des indices maintenant nouveaux, hein?
Oui.
Des indices de développement durable. Non?
Oui, et de responsabilité
et
sociale.
De responsabilité
donc,
sociale.
Qui permettent de dégager les entreprises qui sont plus responsables que
donnez-moi
les
un exemple de ces indices-là qui existent. Bon, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure.
Il y a le Dow Jones Sustainability Index. Alors, ça, c'est un index qui est construit à partir du Dow Jones, mais qui ne regroupe que des entreprises qui se qualifient en termes de responsabilité sociale. Alors, évidemment, les critères vont changer selon les agences de notation, mais quand même, on peut se dire que dans la majorité des cas, ce sont des index qui permettent de différencier de façon intéressante les entreprises qui sont plus performantes en matière sociale et environnementale que les autres de leur secteur.
Et d'ailleurs, je pense que c'est important d'expliquer que le développement durable, si on parle de développement durable, ça englobe de plus en plus une perspective beaucoup plus large. C'est un peu l'écologie de la façon dont, par exemple, des gens comme Pierre Dansereau l'évoquaient. C'est en fait, c'est pas seulement l'environnement, mais c'est tout l'aspect social, c'est la planification pour les générations futures, un peu comme je l'ai évoqué dans ma présentation. C'est beaucoup plus complexe que les seules questions environnementales et pollution environnementale.
Ça, c'est certain. Et le développement durable a été popularisé par le rapport Brundtland. Et dans le rapport Brundtland, on mentionne bien cette dimension sociale. C'est une dimension sociale qui a été un peu oubliée par certains acteurs qui ont fait la promotion du développement durable parce que la nouveauté dans la question du développement, c'était de dire qu'il faut absolument faire attention à l'environnement. On ne peut plus faire du développement économique comme on en faisait avant, faisant attention à l'environnement. Mais en même temps, il est certain qu'on ne peut pas seulement se préoccuper d'environnement. Il faut voir aussi qu'il y a des populations qu'il faut nourrir et il y a des populations qu'il faut loger. Donc, il y a la dimension sociale qui est très importante. Et la définition qu'on reconnaît la plupart du temps du développement durable inclut ces trois pôles-là. Donc, une dimension économique, une dimension sociale et une dimension environnementale. Mais une fois qu'on a dit qu'il y avait trois pôles, et parfois on ajoute le pôle de l'équité, on n'a pas tout dit parce que on peut dire, bon, ben moi, je me suis un peu moins préoccupée d'environnement, mais je me suis plus préoccupée d'économie, par exemple. Alors, on pourrait dire, oui, j'ai pris en compte les trois pôles, et puis bon. Alors, là-dessus, c'est important de préciser que chaque pôle a sa place. Donc, on peut dire que l'environnement, c'est une condition du développement durable. L'économie, c'est un moyen pour atteindre le développement durable. Et le développement social et individuel, c'est l'objectif. Donc, on ne peut pas compenser, dire, bon, ben moi, je fais moins de protection de l'environnement parce que je fais un peu plus de développement économique. Non, il faut d'abord s'assurer qu'on préserve les grandes régulations macroécologiques. Ça, c'est une condition. S'assurer que l'économie qu'on met en place est très efficace et qu'on va atteindre le développement social. Donc, utiliser des indicateurs de développement social et non pas seulement se fier aux indicateurs économiques. Et un dernier point, l'équité dans tout ça, parce qu'il y a une composante aussi, il y en a qui appellent ça un quatrième pôle. Moi, je préfère simplement dire que c'est une composante transversale. Donc, l'équité, c'est pour
l'équité globale, hein?
C'est l'échelle
de la planète.
C'est l'équité entre le Nord et le Sud, l'équité entre les générations, l'équité aussi qu'on dit intragénérationnelle, donc entre les classes sociales, les hommes et les femmes, etc. Donc, cette équité, elle est à la fois une condition, un moyen et une fin du développement durable. Donc, je pense qu'avec cette définition-là, on peut mieux savoir où on s'en va quand on parle de développement durable.
C'est intéressant parce que est-ce qu'on pourrait utiliser l'exemple des sacs réutilisables dans les supermarchés comme pour illustrer tout ça? C'est un geste intéressant sur le plan de peut-être de l'environnement, mais en même temps, quand on découvre que ces sacs-là sont faits en Chine, qui viennent de pays où, d'une certaine façon, on exploite la main-d'œuvre, quelle façon bizarre de résoudre le problème. Hein? C'est un peu ça que vous dites.
Oui, c'est un bon exemple, non? C'est un excellent exemple que vous amenez là, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, on va faire quelque chose.
Ouais.
Alors, on va remplacer les sacs en plastique par des sacs réutilisables. Fantastique, mais ils n'ont pas regardé le problème dans son ensemble. Parce que si vous remplacez un sac en plastique par un sac fait en Chine, même au plan environnemental, vous avez acheté un produit qui nécessite un transport extrêmement important. Alors, peut-être que le coût écologique de votre sac réutilisable, il est plus élevé que le coût d'un sac en plastique à cause du transport. Donc, là, manifestement, on n'a pas regardé toutes les facettes du problème, et si on les avait toutes regardées, à mon avis, on aurait pris un sac fait localement parce que, d'une part, on va maximiser les retombées socio-économiques de l'achat, puisqu'on va encourager les populations locales, on va éviter le transport et en même temps, on a un sac réutilisable, donc on évite le produit qui doit être jeté après utilisation.
Les gens qui nous écoutent pourraient peut-être dire, écoutez, bon, on voit cette intellectuelle-là, elle est dans son université, elle est idéaliste, mais gérer tout ça, c'est extrêmement complexe. On n'a pas les moyens de faire ça dans notre quotidien. Qu'est-ce que vous répondriez à tout ça? Parce que moderniser, une modernisation écologique, c'est toute une série de préoccupations, comme vous venez de le dire. C'est difficile. C'est un défi qui n'est pas facile.
Bien, écoutez, vous savez, d'une part, oui, c'est vrai... Bon, je suis à l'université, mais à l'université, on travaille avec beaucoup de gens du terrain. Nous, à l'UQAM, on a des partenaires, que ce soit des partenaires syndicaux, des ONG. Je travaille aussi avec des entreprises. Donc, on a l'occasion de partager avec les gens du terrain nos réflexions. Et en même temps, il faut dire que les gens du terrain nous inspirent beaucoup dans nos travaux de recherche. Donc, on s'assure de cette manière-là que quand on réfléchit à des problèmes, on n'est pas complètement déconnecté de ce qui se fait. Et il y a beaucoup d'innovation très intéressante dont on peut prendre le pouls dans la population, que ce soit auprès des entreprises ou auprès des
ONG. Donc, c'est faisable, il faut s'y mettre.
Mais c'est tout à fait faisable. Le problème, c'est qu'il y a des gens pour qui la question environnementale puis le développement durable de façon générale, ce n'est pas une vraie préoccupation. Et le développement durable, il faut absolument qu'on s'arrête deux secondes. Là, on dise, OK, l'activité économique est ce qu'elle est. Maintenant, regardons-la et voyons si on ne peut pas faire les choses autrement. Il faut s'arrêter deux secondes là, pour se dire... Et la question n'est pas d'arrêter l'activité économique. La question est de la repenser pour voir si on peut trouver une manière de faire de l'économie qui soit moins dommageable pour l'environnement.
Et il faut que nos gouvernements nous inspirent aussi. Puis vous, je l'ai vu dans des coupures de presse et tout ça, vous donnez de très mauvaises notes, par exemple, au gouvernement actuel à Québec.
Bon, alors, permettez-moi d'être un petit peu plus nuancée peut-être que certaines coupures. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui ont été faites par le gouvernement, surtout la loi sur le développement durable qui a été proposée. C'est une loi qui est bien faite. Les travaux en commission ministérielle et en commission parlementaire ont vraiment permis, en plus de la bonifier, les commentaires ont été pris en compte par le gouvernement. Fait que je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Malheureusement, quand j'entends M. Charest nous dire il ne faut pas, dans le dossier du Montford, il ne faut pas opposer développement économique à développement durable. Bien, écoutez, dans ce dossier-là, manifestement, ce qu'on nous propose, ça s'oppose au développement durable parce qu'on propose un développement économique traditionnel. On ne semble pas avoir pris en compte toutes les facettes de la question. Mmh. Et donc, oui, un certain type de développement économique s'oppose au développement durable. On ne peut pas dire que tout développement économique va nécessairement de pair avec le développement durable. Alors, c'est une phrase qui mérite d'être repensée pour se dire, bon, mais attention, certains types de développement économique ne vont pas avec l'environnement, ne vont pas avec le développement social.
Alors, Corinne Gendron, je rappelle le titre de votre livre. Ça s'intitule « Le développement durable comme compromis ». C'est intéressant. « La modernisation écologique de l'économie à l'ère de la mondialisation ». C'est une préface d'Alain Touraine, d'ailleurs, un sociologue français. Et c'est publié aux presses de l'Université du Québec. C'est disponible dans les librairies, j'imagine.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Très intéressant. À vous. Au revoir.